Vous connaissez tous la parabole des talents dans Matthieu 25. Hein, je vous la lis vite fait. 25-14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et y gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Celui d'après, ça se passe pareil, donc je vous le fais version courte. Et puis, celui d'après aussi, puis il y a celui qui n'en avait reçu qu'un. Et celui-là, il dit, il s'approche et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. » En langage moderne, ça veut dire « Je savais que tu es un investisseur féroce, tu aimes bien spéculer, c'est dangereux de travailler pour toi, j'ai pas voulu prendre de risques. Hein » C'est à peu près ça, quoi. « J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné, etc. Il fallait donc remettre mon argent au banquier à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Le reste pour aujourd'hui, ça ne va pas nous intéresser. En fait, j'utilise cette parabole simplement... tout va bien. T'affole pas, Émilie. Les pensées sont quand même là, à peu près claires. Comme introduction, en pensant à un sujet particulier, hein, il y a quelque chose que Dieu nous a tous confié, et qu'est-ce qu'on en fait ? Et cette chose-là, c'est la capacité à poser et se poser des questions. Dieu a voulu que l'être humain soit capable de questionner. Ce n'est pas la chute qui a voulu cette chose-là, l'homme a été créé comme ça. Hein. Une des raisons, une des premières fois où on voit ça, c'est que Dieu n'a pas donné à Adam une compagne, il a voulu qu'il se pose une question et qu'il réfléchisse à ce qui lui manquait avant de la lui donner. Et rappelez-vous, ça c'est avant la chute, donc il n'y a pas le péché, il n'y a pas d'erreur, etc. Au lieu de dire à Adam, écoute Adam, bon je t'ai fait, mais j'ai fait que la moitié, il te manque quelqu'un, tu vas voir, elle est super, c'est celle-là, prends-la. Qu'est-ce que fait Dieu ? Il dit à Adam, donne un nom aux animaux. Bizarre comme activité quand on vient de créer le monde. Quel besoin il avait de... Hein? Mais Dieu voulait dès le début, c'est la méthode éducative que Dieu a choisie, qu'Adam réfléchisse, donc il lui avait donné quand même un petit cerveau, sûrement bien meilleur que le nôtre aujourd'hui. Et il a fallu qu'Adam nomme les animaux. Tiens, ça c'est long, allez, ouais, une girafe, lion, machin, truc, bidule. Et à la fin, tout seul, il est arrivé à la conclusion... Il manque quelque chose dans cette création, quoi. Ces animaux, Dieu, ils sont sympas, ils sont cool, il y en a des rigolos, il y en a des bizarres. L'ornithorynque, c'est vraiment réussi. Là, tu t'es bien amusé avec tous les restes. Mais, moi, en fait, il me semble que j'aurais besoin d'autre chose. Je sais pas, j'avais quelque chose qui se tienne debout en face de moi, qu'on puisse parler, peut-être plus si affinité, je sais pas. Je sais pas ce qui me manque, mais il me manque quelque chose. Et là, Dieu... créer la femme. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'en fait, c'est le premier exercice de pédagogie qu'il y a eu sur la planète. Et Dieu a commencé comme ça. Et puis, on voit que, je ne sais pas si vous voulez vous amuser, on n'a pas le temps ce matin, faites le tour du nombre de fois dans la Bible où Dieu, ou Jésus, ou les prophètes, mais enfin, Dieu qui parle, utilise les questions. Hein. Au lieu de dire à Caïn, « Caïn, tu as tué ton frère, c'est pas bien. » Dieu va voir Caïn, il dit « Ton frère est où ?» Alors, ce qui est intéressant, c'est que les êtres humains ont quand même appris une chose, c'est à utiliser les questions pour ne pas répondre aux questions. Hein. Parce qu'à la question « Caïn, où est ton frère ?» Caïn répond « Suis-je le gardien de mon frère ?» D'accord. Et ça, on le retrouve à travers l'histoire, parce que lorsque Jésus dit à Pilate « Je suis venu pour... » apporter la vérité, Pilate dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Hein? Donc répondre à une question par une question, c'est un petit peu la mauvaise utilisation de la question. Mais Pour nous, je crois sincèrement que Dieu nous a donné donc cette capacité de réfléchir et de nous poser des questions, et il veut que nous l'utilisions. Et c'est drôle parce que, autant d'un côté, souvent on a des questions, hein, mais l'être humain a cette tendance générale à aimer que quelqu'un réfléchisse à sa place. Plutôt que moi réfléchir, je vais quelque part où le spécialiste, le professionnel, celui qui sait, me dit comment il faut penser. Et le but derrière, c'est d'essayer de dégager sa responsabilité. Parce que vous voyez, quand Dieu dit à Adam, « Adam, qu'est-ce que tu as fait ?» quand il a péché, « Seigneur, la femme que tu m'as donnée, c'est pas moi, c'est la faute de l'autre. » Et on est tous comme ça. Et c'est intéressant de voir que quel que soit le système, alors religieux, humain, dans l'entreprise, etc., partout, il y a toujours ces choses-là. D'un côté, il y a les dirigeants qui n'aiment pas que les gens en dessous se posent des questions, parce que moins les gens se posent des questions, plus on leur fait faire ce qu'on veut, donc c'est pratique. Mais en même temps, c'est possible parce que globalement, la majorité des gens n'aiment pas se poser des questions. C'est tellement plus simple quand on leur dit « cette personne sait ». Alors pour ça, selon les cultures, pour que le fait qu'on ne se questionne pas soit accepté, il y a des codes différents. En Suisse, par exemple, il faut être diplômé. Quand on va voir quelqu'un qui est diplômé, on va voir quelqu'un qui sait et nous on ne sait pas, et puis ce qu'il dit, on ne conteste pas. Dans les systèmes religieux, c'est celui qui a accès à Dieu directement, quoi. Ah, je vais consulter Dieu, je reviens et je parle de la part de Dieu. Ah, Dieu a dit. Et puis dans d'autres cultures, la raison peut être autre. Mais il semblerait qu'on soit comme ça. Et pourtant, ce que Dieu veut, c'est qu'on se pose des questions, qu'on utilise la volonté qu'il nous a donnée, qui fonctionne encore un petit peu, ce qui nous reste d'intelligence, pour nous-mêmes réfléchir. Et je voudrais qu'on voit deux, trois endroits dans la Bible où Jésus utilise cette chose-là, et je trouve ça c'est assez magnifique. Le premier que j'ai choisi, passage, c'est dans cette histoire dont on parle souvent, qui n'est pas une parabole, c'est une histoire vraie qui s'est passée, où les gens religieux de l'époque, pour essayer de piéger Jésus, lui amène cette fameuse pauvre dame qui avait été prise en flagrant délit d'adultère, hein, toute seule. Et puis, voilà. La loi dit de lapider une telle femme, et toi, que dis-tu ? Question. Mais question tordue, méchante. Question qui a pour but de piéger, ils savent. Jésus prend son temps, il les regarde tranquillement, il crie dans la poussière, il y a plein d'hypothèses là-dessus. Mais il se relève et sa réponse, même s'il n'y a pas un point d'interrogation, c'est une question. Hein, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est-à-dire, il pose à chaque participant la question, qui est une partie de réponse, qui, effectivement, il faudrait la lapider, vous avez raison. Donc, qui va commencer ? Je pose la question. Y a-t-il un volontaire ? Ah, simplement, il y a une condition. Celui qui va commencer, est-ce qu'il y en a un parmi vous qui n'a jamais péché pour commencer ? Et puis là, ils réfléchissent quand même un petit peu, il leur reste une capacité pour réfléchir. Hein. Et puis les plus âgés qui ont la conscience plus chargée, forcément ils ont eu plus de temps. C'est pas que les personnes âgées sont plus méchantes que les autres, hein, mais ils ont eu plus de temps de péché, donc ils ont accumulé plus de péchés, forcément. Hein. C'est tout, hein, c'est mathématique. Hein. Si l'être humain pêche en moyenne 2,5 fois par jour, là, multiplié par le nombre de jours vécus, plus on est âgé, plus c'est l'occasion. Alors donc, hein, qu'est-ce qu'ils font avec ça ? Ben, ils s'en vont. Hein. Et je trouve déjà ça extraordinaire parce qu'en fait, un, Jésus ne les a pas accusés, il ne leur a rien dit, il ne leur a pas dit ce qu'il fallait faire. Hein. Ils sont arrivés tout seuls à la conclusion qu'ils étaient pécheurs. C'est incroyable. Il aurait pu prêcher pendant une demi-heure avec toute la capacité que Jésus avait à enseigner, parce que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir des moments où on communique des informations, et notamment la vérité, il faut aussi. Mais dans ce cas-là, Jésus savait très bien, puisque la pédagogie c'est lui qui a inventé, hein, et l'être humain aussi, donc il sait comment ça fonctionne, il savait très bien qu'un discours ne pouvait pas les convaincre. Il pouvait leur expliquer, bah, vous comprenez, il faut être compatissant, yada, ça aurait pu vous arriver à vous, moi non, jamais... Une simple question. Et ils s'en vont tous. Hein. Et puis, il utilise les mêmes outils après. Il s'approche de la dame et qu'est-ce qu'il lui dit ? Où sont ceux qui te condamnaient ? C'est beau comme formule. Hein ? Et elle répond. Et là, il y a une affirmation. Hein. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Puis il y a une conséquence derrière. Et en fait, avec trois petites questions, Jésus résout un problème insoluble. Nous, on connaît cette histoire, mais si on nous donnait ça comme énigme, qu'on ne connaisse pas la solution, on serait encore en train de chercher la réponse. Parce que soit Jésus disait aux pharisiens, vous avez raison, il faut lapider la femme, puisque la loi le dit. Et du coup, ben, y a plus de grâce, il n'y a plus de pardon. Soit il dit, ouais, mais dans certains cas, il faut pardonner. Ah, Jésus a donné le droit de commettre des adultères. Non, il évite tous les pièges hein, et il fait ça avec deux petites questions. Et je trouve ça extraordinaire. Et puis, il y a un autre moment important dans le ministère de Jésus, hein, puisque quand même, la grande question au sujet de Jésus, c'était, c'est qui ce bonhomme ? C'est un fou ? C'est un prophète, un bras illuminé, mais quand même c'est un vrai, c'est un charlatan, c'est qui ? Parce que tout résidait là. S'il est vraiment le Messie, le Fils de Dieu, alors hein, s'il ne l'est pas, il faut le lapider. C'est qui ? Et puis, il y a des discussions sur ce sujet, etc. Et Jésus est avec ses disciples, et bien sûr, le but de Jésus avec ses disciples, c'est de les enseigner, c'est de leur apprendre, c'est de les préparer pour après, quand il ne sera pas là. Hein. Donc, ils sont à l'école. Avec Christ. Et il y a ce passage que je trouve magnifique dans Luc 9, 18. Il dit ceci. Un jour, Jésus pria à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Alors, il les interrogea. Que disent les foules à mon sujet ? Qui suis-je d'après elles ? Première question. Hein. Commence par quelque chose qui ne soit pas trop... qui ne se sente pas trop agressé parce que sinon, le problème avec les questions, c'est que selon comment elles sont posées, ça fait tellement peur qu'on s'en va en courant. Alors, il commence à en poser une question, mais sur ce que les autres disent. Hein. Qu'est-ce que les foules disent que je suis ? Et puis là, les disciples ben, sont contents parce que c'est assez facile comme question, ils peuvent répondre. Hein. Ah, il y en a qui disent que tu es Élie, qui est revenu, il y en a qui disent que tu es le messager, il y en a qui disent que tu es un prophète, il y a toutes les versions qui viennent, et puis bon, on peut supposer que le texte écrit là condense un petit peu, mais ça a dû durer peut-être un petit moment, parce que chacun avait... Ah, moi, j'en ai entendu un qui dit que tu es... Chacun a sa réponse, quoi. Et là, ils commencent à être en confiance, ils se détendent un peu. Hein. On peut répondre aux questions de Jésus. Alors, on est quand même des gens bien, etc. Et puis, il y a l'autre question qui arrive derrière, gentiment, tranquillement. Hein. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? Pouf. Question, j'allais dire qui tue, non, mais qui donne la vie, ça dépend. Et vous, qui dites-vous que je suis ? On ne réalise pas pour nous. Hein. Nous, on lit ça, c'est dans la Bible, on passe au verset d'après. Pensez, là c'est des gens qui ont tout misé sur Jésus quand même hein. Ils ont grillé leur statut social parce qu'ils sont partis avec lui, donc s'ils sont partis avec un fou, c'est des fous. Maintenant s'ils sont partis avec celui qui va devenir roi, ils seront ministres. Ah ah, qui tout double hein. Ils n'ont plus de boulot, pour la plupart, pas tous, mais ils étaient mariés. Je peux imaginer ce que ça donnait dans la vie de couple, ça devait être charmant. Pour la famille, n'en parlons pas. Ils étaient dans une situation qui était quand même compliquée. Et puis, ils suivaient Jésus avec des espérances diverses. Hein. Il y a ceux qui espéraient qu'il allait renverser les Romains. Il y a ceux qui espéraient qu'il allait au moins être un grand, grand prophète qui allait faire des grandes choses. Et puis, ben, nous, on serait quand même ceux qui étaient avec celui qui a fait. Et puis, il y a ceux qui se posaient des questions. Et là, il les renvoie chacun à leur propre motivation, à ce qu'ils vivent. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Et bon, il y a la réponse de Pierre qui est... Pierre, il a beaucoup de défauts, mais c'est quelqu'un qui... Bon, il parle vite, hein. Il parle, il réfléchit après, mais pour une fois, il ne dit pas une bêtise, même s'il n'a pas tout compris. Mais je me disais, c'est vraiment une question intéressante. En fait, je pensais ce matin prendre un petit moment à la cour pour qu'on se pose la question, nous. Qui je dis, moi, que Jésus est ? Quand je dis qui il est, c'est pas une réponse générale, ouais, c'est le Fils de Dieu, c'est... Là. Qui est Jésus ? Pour moi, dans ma vie, c'est qui ? Et puis, avant de dire des choses, j'aimerais vous laisser un tout petit peu. Je ne vais pas vous demander de dire à haute voix la réponse, donc ne stressez pas. Il n'y a pas d'examen. Mais chacun d'entre vous peut se poser cette question, réellement. Parce que ma mère a dit, le pasteur a dit, le voisin, ce que je crois, ce que machin. C'est qui Jésus pour moi dans ma vie? On prend un tout petit moment, on y réfléchit, moi aussi. En fait, il faut dépasser du temps, vous pourrez le faire chez vous. Et puis on pourrait aussi faire passer les papiers que vous mettiez les réponses, on ne va pas le faire non plus. Hein. Mais je réalisais quand je me posais cette question en pensant à ce matin, je me disais, c'est lourd de conséquences ce que je réponds. Si je veux sortir des formules toutes faites, hein. Oui, c'est le Fils de Dieu, le Messie, l'envoyé, ok, ça on le sait. C'est qui Jésus ? Réellement, dans ma vie. Parce que ça revient à poser plein d'autres questions. Quelle place il a? Mais j'ai dit qu'il était ça, 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 mais est-ce que ma façon de penser, de vivre, d'organiser mes priorités est en accord avec ma réponse? Pas forcément. Donc la vraie réponse, en fait, c'est pas ce que je dis qu'il est, c'est ce que ma vie, l'organisation de ma vie, de mes pensées, montre qu'il est. Et puis là, ça fait, je sais pas pour vous, mais moi, ça faisait drôle. Hein. Entre la réponse qui vient normalement, que je peux dire, la réponse professionnelle, hein, puisque je suis un professionnel pour vous expliquer qui est Jésus, c'est mon métier, je suis payé pour ça, j'ai étudié pour ça. Et puis, la vraie réponse. Hein. Et c'est vrai que c'est facile de poser une autre question, quoi. Hein. Ouais, ça dépend ce qu'on entend par là, est-ce qu'on parle du personnage historique ou de... Non, on pose pas de questions, juste que j'y réponde, quoi. Et... c'est intéressant parce que on sait, ça se mesure pas très précisément, c'est pas une science exacte, mais quand même, que le savoir qu'on a acquis parce qu'on l'a cherché nous-mêmes a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'impact dans nos vies que ce qu'on a entendu et puis qu'on nous l'a dit. Quoi, hein. Et je trouvais que c'était intéressant de se poser cette question. Et puis, un peu plus tard, Jésus pose une autre question à ses disciples qui est peut-être encore plus déroutante. Il vient de donner des enseignements compliqués, mais surtout violemment choquants dans la culture de l'époque. Dans une culture où on n'a même pas le droit de manger un mouton s'il n'a pas été égorgé correctement, si tout le sang n'a pas été sorti. Enfin, c'était très 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 strict. Hein. Jésus donne un enseignement où il explique « Vous devez manger ma chair, vous devez boire mon sang. » Bon, nous, on est habitués avec ce vocabulaire, mais c'est provocateur et choquant à un point qu'on ne peut pas imaginer. Quoi, hein. La seule chose que je trouve pour nous culturellement qui peut nous aider à comprendre, ça serait un peu aller dans un rassemblement où il y a des musulmans, puis leur dire « Est-ce que vous voulez un petit verre de sang de porc ?» Et puis on va faire griller des côtelettes. Quoi. Mais c'est dans la culture juive, quand Jésus dit « mangez mon corps et buvez mon sang », c'est pas anodin, c'est un truc, c'est violent, violent. Quoi. Donc, résultat de ça, les foules qui étaient venues pour l'écouter s'en vont, tous. Il y avait des foules qui étaient là, elles s'en vont. Elles ont peur. C'est trop, elles veulent pas réfléchir à ce que ça implique. Elles s'en vont. Il reste plus que les 12. Hein. Et là, il y a ce passage que, personnellement, j'aime énormément, j'y reviens souvent. C'est quelque part où. Voilà, Jean 6, 67. Tout le monde est parti, il ne reste plus que les 12. Et Jésus, se tournant vers les 12, leur demanda, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Ça, c'est une question. Déjà, je trouve cette question passionnante pour une raison, c'est que elle va contre tout ce que n'importe quel dirigeant normal ferait, quel que soit le domaine. Vous avez... quelques milliers de sympathisants, que ce soit en politique, en religion, en sport, en n'importe quoi, vous êtes un musicien, c'est vos fans, quel que soit le domaine, et puis ils s'en vont tous, sur les milliers qu'il y avait, il en reste 12. Quel discours on tient, forcément tous, hein. C'est le moment de resserrer les rangs. Quoi, hein. Et les gars, vous avez vu, ils nous ont abandonnés, mais c'est pas grave, parce qu'ils n'ont rien compris. Mais vous, vous êtes ceux qui avez compris. Puis si vous restez avec moi, quand j'aurai gagné, vous serez ci, vous aurez ça. Allez, puis c'est pas grave, là, on a fait le tri, en fait, mais on garde que les purs. Plein de discours comme ça, quoi. Jésus, lui, regarde les gens partir. Les disciples commencent à paniquer, parce que l'être humain, il est comme ça. Hein. Tout seul, j'hésite. Si on est des milliers, on a forcément raison. Vous connaissez le truc, hein. Une imbécilité dite par une personne, c'est une imbécilité, mais s'il y a des milliers de personnes qui la disent, c'est une belle vérité. C'est comme ça, chez l'être humain. C'est vrai, hein ? Dans tous les domaines, hein ? Je vous ai déjà raconté cette histoire à la feria de Nîmes, quand j'habitais Nîmes. Une semaine avant la feria, je vais travailler, 7h du matin, un homme saoul sur le trottoir. Tous les gens qui passaient. Quelle honte, 7h du matin, saoul dans la rue, quelle horreur ! Trois jours après, il y avait 3 à 4 000 personnes saoul dans les rues le matin. Commentaires des journalistes. C'était vraiment une fête extraordinaire, vous voyez tous ces gens qui s'amusent. Donc un homme sous sur un trottoir, c'est un homme qui est sous, mais 3000 hommes sous les trottoirs, c'est des gens qui s'amusent. Qu'est-ce qui a changé entre-temps ? Ben, quand on est nombreux à faire la même chose, on a raison, quoi, hein. Donc pour les disciples, de voir tous ces milliers de gens qui étaient là, c'est quand même rassurant. Puis en plus, hey, ils sont arrivés après nous, hein. Nous, on était les premiers. Quand tu auras le nouveau gouvernement, on veut une place bien, etc., quoi. Et là, tout le monde s'en va. Panique à bord. Hein. Pensez, c'est dans la vraie vie, ils ne savent pas, hein. Il n'y a pas qu'est-ce qui va se passer après, quoi. Puis l'époque, les assurances sociales, ça n'existe pas, le chômage non plus, l'AI non plus, il n'y a rien, hein. On se débrouille tout seul, quoi. Eux, ils ont mis toutes leurs cartouches là-dedans, et tout d'un coup, tout le monde se tire, quoi. Catastrophe. Et pour essayer de la rassurer, qu'est-ce que fait Jésus ? Il rassemble ses 12 tranquillement, je peux l'imaginer, tranquille, paisible. Et là, ils attendent le discours d'encouragement du chef. Et là, la question arrive. Et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller ? Hein, essayez de vous mettre réellement dans l'histoire. C'est traumatisant, cette question-là. Et là, Pierre, encore une fois, moi je l'aime bien, Pierre. Il parle avant de réfléchir, mais il a quand même quelque chose dans les tripes. Hein. Hein, des fois, c'est bien. Seigneur, où c'est qu'on irait ? Il n'y a rien de mieux que toi. En gros, c'est ça qu'il dit. Quoi. Pourtant, il n'a pas compris grand-chose. Hein. Mais il a confusément compris cette chose-là. Et moi, vous savez, quand je pense à la réponse de Pierre à ce moment-là, j'imagine Dieu, les anges, tout le monde là-haut qui est penché au-dessus d'un nuage, qui regarde, les démons qui sont là à côté, et ils sont tous à attendre. Quelqu'un va gagner. Vous savez, c'est comme un grand match avec plein de monde. Puis la réponse de Pierre, bon, encore une fois, il n'a pas tout compris, il va faire des bêtises monstrueuses. Hein. Mais sur ce coup-là, il dit ça, et là, il y a Dieu qui est assis sur le rebord du monde et qui le regarde et qui dit « Ouais !» Et tous les anges qui font « Ouais !» Et tous les démons qui se tirent. Ah! Et en fait, toute l'histoire depuis le début, l'intelligence, entre guillemets, relative, le fait de se poser des questions, la liberté, le libre arbitre avec le péché qui vient, là, tout ça, c'est pour que de temps en temps, il y ait un être humain qui a une question comme ça, dise, il n'y a rien à gagner, il y a tout à perdre, et la vie est là, et c'est ça qu'on veut. Même si un quart d'heure après, ils vont dire le contraire. Mais dans ce moment-là, sincèrement, ils disent ça. Hein. Ce que Dieu veut, c'est cette réponse-là. C'est ça qui l'intéresse. Et vous comprenez pourquoi remplir des bâtiments avec des gens qui ne réfléchissent pas, qui font ce qu'on leur a dit parce qu'il fallait le faire. Hein. Dieu est même plus sur le rebord du monde, il a tourné le dos et il pleure. Il s'est dit, mais c'est pas ça que je voulais. Je veux des gens à qui on a dit, mais vous ne voulez pas aussi vous en aller ? Et qui disent, je ne saurais pas dire pourquoi, j'ai rien compris, mais je veux rester parce que mieux que toi, il n'y a pas. Vous savez, ce matin, je déjeunais avec un ami qui a, c'est un croyant, qui a vécu 15 ans dans une église, qui a été vraiment détruit par la vie d'église, mais vraiment détruit. Et il me disait, je suis descendu du train, le train est passé, et moi je suis resté sur le quai, ça fait 10 ans que j'attends qu'il repasse. Et après il me disait, mais chaque fois que j'essaie de dire, je ne suis pas croyant, je ne peux pas. Je peux pas. Les églises, je veux plus voir les gens, c'est tous des voleurs, des manières. Mais Dieu, c'est lui. Et je disais, mais écoute, je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas quand c'est qu'il y aura le train, si ça sera le dernier ou s'il y en aura un autre, mais tu as tout compris. Continue comme ça. Et bien sûr que j'aimerais qu'il puisse se retrouver d'autres croyants qui comprennent comme lui, on va se retrouver, on va se réjouir ensemble et on va continuer d'avancer. Mais ce que Dieu veut, c'est ça. Qu'on se pose des vraies questions, parce que sinon, ça n'a pas de valeur. Hein. Effectivement, j'aimerais qu'on soit 300 ce matin, ça serait super. Mais si on est 300, puis il y en a 295 qui sont là parce qu'ils ont peur que Dieu les foudroie s'ils viennent pas au culte, c'est triste, mieux qu'on soit 5. Et j'aimerais qu'on soit 300. Et pareil pour tout. Oui, je crois qu'un chrétien doit prier tous les jours et lire sa Bible, etc. Mais pourquoi on le fait? Et peut-être pourquoi on ne le fait pas? Alors je crois que Dieu nous a donné cet outil extraordinaire, pouvoir se poser des questions et pouvoir lui en poser aussi, parce que ça on a le droit, c'est ça qui est génial. Hein. Dire à Dieu, et zut, et j'en ai marre, et je ne comprends pas, et pourquoi? On a le droit de lui poser toutes les questions. La réponse va nous plaire ou pas, on va la comprendre plus ou moins bien, plus ou moins vite. Il n'est pas à notre disposition, ce n'est pas une machine à répondre aux questions. Il est intelligent, il sait ce qu'il fait. Mais ce qu'il attend de nous, c'est qu'on se pose des questions, qu'on réponde aux siennes, qu'on réfléchisse, et puis qu'on dise quand on ne sait pas. Hein, je ne sais pas, je ne comprends pas. J'ai beau tourner la question dans tous les sens, je ne comprends pas. C'est pas grave, je vais t'expliquer. Mais ça va prendre du temps. La vie est courte, on va commencer à t'expliquer ici, mais on continuera à la maison. Hein, dans 30, 40 ou 50 ans. Tu auras un peu grandi aussi, quoi. Mais moi, je crois que c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est pas le plus simple. Hein. C'est tellement plus simple de dire, voilà, moi j'ai étudié, moi je sais, vous savez pas, asseyez-vous, je vais vous dire ce que vous faut faire. Et si vous faites ça, Dieu sera content et moi aussi. Ça marche. Sincèrement, ça marche. Il suffit de trouver les formes, mais vous pouvez remplir des salles, tenir les gens, leur faire faire des programmes, ils vont faire ce que vous voulez. Ce qu'ils veulent pas, on sait comment traiter. Hein. On les déclare hérétiques, un peu de mobbing, un peu de ci, un peu de ça, on sait les remettre à leur place. Ça a toujours fonctionné sur Terre. Ça fonctionnera toujours. Mais chaque fois que un être humain a la question qui est posée, qui dites-vous que je suis? Se tourne vers lui, même s'il ne comprend pas. Et chaque fois que les situations disent, vous voulez pas aussi vous en aller? J'aimerais, hein, vraiment j'aimerais. Mais en réalité, je peux pas. Savez, on est comme Jonas. Hein. Je veux pas faire ce que Dieu m'a dit. Je veux pas écouter. Je veux aller ailleurs. Le problème, c'est qu'ailleurs, il n'y a pas la vie, quoi. Je parle pas d'un lieu ici. Hein. Alors, ben, tiens, j'ai pas le choix. Tu connais mon cœur et puis je viens à toi. Alors, je vous encourage à être des questionneurs professionnels, à pas utiliser les questions pour éviter les questions, en tout cas avec Dieu. Et puis prendre le temps, ça c'est une denrée rare, mais prendre le temps pour se poser les bonnes questions. Et voir ce que ça a comme conséquence. Mais attention, c'est un mode de vie dangereux. Les disciples, parce qu'ils ont accepté de vivre comme ça, sont tous morts, sans exception. Pas de mort naturelle. C'est rassurant ce que je vous dis. Hein. Donc je ne sais pas où ça va vous mener. Mais c'est la vraie vie, ça c'est sûr. Seigneur, on te remercie parce que tu as voulu que les choses soient comme ça. On ne comprend pas tout, ou pas grand-chose. Et en même temps, on sait profondément au fond de nous que c'est toi qui as la vie, réellement. Et pourtant, tellement souvent, on te tourne le dos, Seigneur, mais tu te vexes pas, tu te fâches pas. Alors, on te demande que tu touches nos cœurs toujours plus, que tu nous donnes d'être honnêtes et que nous sachions utiliser le potentiel de questions que tu nous as donné, que nous sachions le faire fructifier pour trouver te trouver toi, Seigneur. Ta personne qui est la vérité, pas une théorie sur toi, mais toi. Merci de nous garder, merci de nous conduire, merci de nous aider aussi les uns les autres à nous poser les bonnes questions, à nous encourager à chercher les réponses ensemble, et que nous puissions avancer vers toi, Seigneur.